Donc ce soir, on traite le sujet à la fois banal et très profond de la fraternité. En France, a priori, il y aurait 26% de la population qui se dit isolée, exclue ou inutile. Ça fait presque un quart. Vous sentez à quel point la fraternité est une valeur qui représente un vrai enjeu ? On dit souvent que les catholiques connaissent bien cette valeur de la fraternité, mais en réalité, elle est tout aussi difficile à exercer au travail que dans nos paroisses, et on le sait bien. Pour exemple, j'ai une collègue qui est dans l'équipe d'animation à l'école des témoins à Tarascon, et vous savez, au moment où on a changé la reconstruction des petits groupes, il y a plusieurs personnes qui sont venues la voir en lui disant « Ah, tu sais, j'aimerais bien ne pas être avec cette personne parce qu'elle part trop longtemps » ou ce genre de choses. Donc, vous voyez que ça, c'est des comportements qu'on connaît tous et qui nous habitent, même entre nous, chrétiens. Voilà, donc la fraternité, il y a du boulot. Donc, pour aborder ce sujet, je vais d'abord faire une première partie pour qu'on reconnaisse ensemble qu'aimer son frère, c'est une chose difficile. Puis on essaiera de comprendre qu'est-ce que la fraternité. Alors, qui est mon frère ? Guillaume l'a dit tout à l'heure, je le répète, le frère est celui que l'on n'a pas choisi, qui est cependant le plus proche et que l'on ne peut éviter ou renier. Le frère ou la sœur, si la plupart de nous en avons un ou une, c'est aussi celui ou celle à qui on se compare, celui dont on est jaloux. Et pourquoi l'aimer alors ? Parce que Dieu nous y invite, tout simplement, depuis l'Ancien Testament jusqu'à la venue de Jésus qui le précise et même le martèle. En Jean chapitre 13, Jésus nous dit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » On connaît ça par cœur. L'amour est dans notre ADN de chrétien, on n'a pas le choix. C'est inscrit en nous dès notre baptême. Pas d'amour, pas de chrétien. Et pourquoi aimer aussi ? Parce que de manière très pragmatique, c'est pas tenable de pas aimer son frère. Ça rend malheureux tout le monde, ça complique la vie de pas aimer. C'est beaucoup de souffrance de pas aimer. On sait à quel point c'est beaucoup de souffrance de divorcer, de plus parler à sa fille depuis plus de 10 ans. Tant d'exemples qui nous font souffrir. Et Guillaume parlait tout à l'heure de l'exemple de Caïn et Abel qu'on connaît par cœur. Mais justement, pour ne pas rester dans ces images qui ont des milliers d'années, je voudrais qu'on aborde tout ce topo en reconnaissant humblement qu'aimer son frère, c'est difficile, qu'on est tous confrontés quasi quotidiennement à des manquements d'amour, petits ou grands. Alors l'idée, c'est pas qu'on se flagelle tous ensemble, loin de là, mais c'est plutôt qu'on se place sous le regard de la vérité. Si on écoute un topo sur la fraternité en partant du principe qu'on est plutôt un bon chrétien, on fait de notre mieux pour aimer tout le monde, autant rester chez soi. Bon point, déjà, on a fait la démarche de s'inscrire à l'école des témoins. A priori, c'est qu'on reconnaît qu'il nous manque quelque chose, qu'on est venu chercher quelque chose ici en plus. Voilà. Donc, ce soir, je vous demande de faire l'effort de vous reconnaître petit en amour. Je vais laisser un petit temps de silence exprès pour que chacun pense à une situation concrète de manque d'amour ou de manque de fraternité, chacun dans sa vie. Alors, rentrons dans le vif du sujet, qu'est-ce que la fraternité ? Déjà, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour aborder ce thème. Vous savez tous que c'est la devise de notre pays, liberté, égalité, fraternité. Donc, d'un point de vue républicain, le dictionnaire dit que la fraternité, c'est l'amour universel qui unit tous les membres de la famille humaine. L'idée de fraternité universelle revient à affirmer qu'au-delà des clivages inévitables entre les hommes ou entre les communautés humaines, il y a quelque chose de plus solide qui invite à reconnaître en tout homme une sorte d'autre soi-même. Voilà, ça, la fraternité, c'est au-delà de la solidarité qui peut se réduire juste à des simples lois ou des règles. La fraternité, ça évoque une sorte de chaleur humaine ou une empathie. Alors finalement, c'est quoi la différence entre cette définition-là et la nôtre de chrétien ? Eh bien, la différence, elle porte un nom que vous connaissez tous, c'est le nom de Jésus. Cet amour universel qui unit tous les hommes, c'est Jésus. Pour les chrétiens, la grande famille humaine, comme on l'appelait tout à l'heure, c'est l'Église, ou encore le peuple de Dieu, et donc le corps du Christ. Je vous rappelle que dans le catéchisme de l'Église catholique, on définit l'Église en disant « tous les hommes, sous diverses formes, appartiennent ou sont ordonnés à l'unité catholique du peuple de Dieu ». En gros, l'Église, c'est tout le monde. Ce qui change radicalement la manière de regarder son frère. Le lien entre moi et mon frère devient physique. Il faut en être persuadé de ça. Si je suis le coude et André l'avant-bras, on fait comment ? Le lien est physique entre nous. Il y a des vaisseaux sanguins, des nerfs, des tendons. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Quand saint Paul parle de l'Église comme un corps, c'est pas qu'une image. Il faut vraiment en être persuadé. C'est de ça que découle le regard qu'on porte sur nos frères. Si on n'est pas persuadé de ça, on peut croire qu'on peut se passer de l'autre. Et ça, c'est la mort. On peut croire que tous les jours, on croise cet homme qui habite dans la rue, en allant au boulot, on le croise tous les jours. On peut croire qu'on peut passer notre vie sans prêter attention à lui. C'est pas vrai. Voilà, donc si on réduit un peu le champ immense de la famille humaine qui nous donne le vertige, concentrons-nous par exemple ce soir sur les communautés que nous formons dans nos paroisses. Jean-Paul II nous dit « Pour quelques-uns, la vie de communauté est ressentie comme un obstacle à la mission, presque une perte de temps, dans des questions plutôt secondaires. » Ça peut nous parler, ça. Et ouais, parfois on a envie de faire bouger sa paroisse dans le bon sens, d'être missionnaire, et puis on fait face à une assemblée un peu momole, un peu tiède, il n'y a rien qui bouge. On a vite fait de se dire qu'on avancerait plus facilement sans ces ringards. Jean-Paul II continue en disant « Il est nécessaire de rappeler à tous que la communion fraternelle, en tant que telle, est déjà un apostolat, c'est-à-dire qu'elle contribue directement à l'œuvre d'évangélisation. Écoutez, le signe par excellence laissé par le Seigneur est celui de la fraternité vécue. » Je pense que ça, il faut se le graver. En clair, vaut mieux avancer lentement mais tous ensemble plutôt que vite mais tout seul. Il n'y a aucun membre inutile. Le moindre cil de notre œil a son importance. C'est plus naturel de se dire « Oh, cette vieille catéchiste ronchonne qui freine des cas de fer pour tel ou tel projet. Eh ben tant pis, on fait sans elle et puis on va s'en passer. » Eh ben non, la vraie fraternité, c'est pas ça malheureusement. Le pape François nous éclaire dans un passage de la joie de l'Évangile. Il s'agit d'apprendre à découvrir Jésus dans le visage des autres, même de la vieille catéchiste ronchonne, dans leur voix, dans leurs demandes. C'est aussi apprendre à souffrir en embrassant Jésus crucifié quand nous subissons des agressions injustes ou des ingratitudes, sans jamais nous lasser de choisir la fraternité. On a envie des ingratitudes et des injustices, même en paroisse. Alors, une des pistes concrètes pour plus de fraternité en paroisse, ce sont ce qu'on appelle les maisonnées. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous savez, ces rencontres souvent hebdomadaires, un groupe de 8 personnes environ. On prie ensemble, on partage sur sa vie de foi, entre autres. L'expérience des maisonnées, c'est l'expérience concrète de la fraternité. On s'écoute sans se juger, on est en communion par la prière. Et ça donne un terreau fertile à notre croissance spirituelle. On sait tous que plus on se connaît, mieux on s'aime. Voilà, on a tous envie d'être des super missionnaires. Quand on est ensemble, les mardis soirs à l'école des témoins, on se dit c'est bon, on va y arriver, on est sur le bon chemin. Et puis on retourne dans notre paroisse, pouf, tout retombe, tout s'envole. On a envie de prendre ses deux jambes à son cou et de s'enfuir à Notre-Dame-de-l'Arc, par exemple. Et c'est là qu'on fait face à un terrain très glissant. Le pape François n'y va pas avec des pincettes dans la joie de l'Évangile, en nous mettant en garde contre la mondanité spirituelle. Il appelle les mondains spirituels ceux qui se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils observent des normes déterminées
ou parce qu'ils sont inébranlablement fidèles à un certain style catholique. Au lieu d'évangéliser, on analyse, on classifie les autres, et au lieu de faciliter l'accès à la grâce, les énergies s'usent dans le contrôle. Le seul remède spirituel au mondain qui réveille en nous, qui sommeille en nous, pardon, ou tout autre comportement qui nous dévie de la fraternité, c'est la parole de Dieu. Il faut en user, en abuser, jusqu'à ce qu'elle nous transforme et que ce ne soit plus nos vanités qui agissent, mais simplement l'Esprit de Dieu qui agisse en nous. Alors ensuite, je faisais un petit état des lieux sur l'école des témoins pour voir en quoi elle était fraternelle, en lien avec le texte qu'on a lu. Mais je n'ai plus le temps. Mais le résultat du test, c'était que, ouf, l'école des témoins est fraternelle. Voilà, donc, vive l'école des témoins et qu'elle porte en nous des fruits de fraternité, chers frères.
Amen.